was looking for God. I was searching. Hello famille, j'espère que vous allez bien. Personnellement, ça va. J'espère que l'attente n'a pas été trop longue jusqu'à l'épisode d'aujourd'hui, même si je ne pense pas. Donc on se retrouve aujourd'hui encore pour l'épisode 3 du podcast que j'ai décidé d'appeler Humanship, en parallèle avec Relationship, parce que c'est le thème, c'est le gros sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Pour les nouveaux, bienvenue dans Soul for Soul, désolée de le prononcer en français, votre podcast où on parle de religion, de spiritualité et de la vie de façon plus générale. Aujourd'hui, on va vraiment se focus, comme je l'ai dit, sur les relations humaines, sur l'amitié et ce qui m'a poussée à me dire que je devais vraiment faire un épisode là-dessus, c'est ma petite réflexion selon laquelle, avec l'âge, l'amitié évolue. Avec l'âge, l'amitié évolue. Et donc aujourd'hui, on va un peu parler de la vérité sur l'amitié, si je peux dire ça comme ça. Au départ, je me suis dit « Ah, mais je vais pas forcément faire tout un épisode dessus. » Mais après, je me suis rendu compte que c'était important et qu'il y avait quand même des choses à dire. Il y avait quand même des choses à dire dans la continuité de l'idée de la trilogie sur l'amour, sachant que dans l'épisode précédent, on a parlé de l'amour de soi. J'ai eu plein de retours qui m'ont fait grave chaud au cœur. Du coup, si vous n'avez pas encore écouté l'épisode sur l'amour de soi, je vous encourage vivement à aller le faire, parce que c'est vraiment hyper intéressant, dans un avis totalement objectif. Et dans la continuité de cet amour qu'on porte sur soi, il y a l'amour de l'autre. Et gérer ses relations, gérer ses amitiés, avant de pouvoir gérer, du coup, à la fin, une relation amoureuse. J'ai décidé de faire l'épisode différemment aujourd'hui, en prenant entièrement appui sur un seul et unique texte de la parole de Dieu et en me focalisant sur les versets de ce texte du coup que j'ai choisi. On va donc essayer de faire une petite analyse de ce texte parce que je ne sais pas si on peut parler de méditation à proprement dit. Après une lecture en intégralité du texte, on va prendre le texte verset par verset. On va faire une explication plus détaillée des versets qui ne sont pas évidents, même si mon objectif c'est de quand même pouvoir réussir à tirer l'essence, si je peux dire ça comme ça, de chaque verset, avec des illustrations si possible. Et donc je vais vraiment essayer de faire les explications les plus fines possibles, comme moi en tout cas, je les ai compris et ce que ça m'a inspiré en fonction de comment est-ce que j'ai prié et comment est-ce que je me suis investie dans la chose. Alors, on va débuter. Le texte que j'ai choisi est un texte du livre de Ben Sirac le Sage, ou Livre de Siracide, ou encore Ecclésiastique. C'est le même livre. Je pense que je vais faire un post plus détaillé dessus plus tard, parce qu'avec des livres comme Sagesse, ou Tobie, ou encore Judith, ce sont des livres dits deutérocanoniques, et ils ne sont pas présents de ce fait dans les bibles protestantes, mais les catholiques ont décidé de garder ces livres pour leur richesse et ce qu'ils peuvent nous apporter aujourd'hui dans notre vie quotidienne et surtout dans notre vie en tant que chrétien. Il faut savoir qu'il y a différentes versions des bibles du coup et que les mots utilisés ou la formulation des phrases diffèrent très généralement d'une version à une autre. Et moi j'ai choisi la version pour ce texte-là de la Bible catholique Crampon de 1923, qui est du coup disponible sur l'application Bible, que je vous incite à télécharger si vous ne l'avez pas, parce que j'ai trouvé que le fait que ce soit en brief une vieille version et que ce soit pas en français courant, même si vous verrez que le français est vraiment très simple, ça donnait une autre profondeur à certains versets, et du coup j'ai préféré prendre cette version-là, mais quelle que soit la version de Bible catholique que vous avez, ou la version avec des livres de tarot canonique, vous verrez que c'est vraiment les mêmes phrases. Du coup, les références du texte sont Siracide, chapitre 6, versets 5 à 17. Du coup, ce sont les références du texte, et je vais vous le lire. Une parole douce fait beaucoup d'amis, et la langue aimable est riche d'amabilité. Qu'ils soient nombreux ceux qui vivent en bon rapport avec toi, mais prends conseil d'un seul entre mille. Si tu veux acquérir un ami, acquiers-le en l'éprouvant, et ne te confie pas à lui à la légère. Car tel est ami à ses heures, qui ne le restera pas au jour de ton affliction. Tel est ami qui deviendra un ennemi, et qui révélera votre différend à ta confusion. Tel est ami, quand il est assis à ta table, qui ne le restera pas au jour de ton malheur. Durant ta prospérité, il sera comme un autre toi-même, et il parlera librement avec les gens de ta maison. Si tu tombes dans l'humiliation, il sera contre toi et il se cachera devant toi. Éloigne-toi de tes ennemis et sois sur tes gardes avec tes amis. Un ami fidèle est une protection puissante, celui qui le trouve a trouvé un trésor. Rien ne vaut un ami fidèle, aucun poids ne saurait en marquer le prix. Un ami fidèle est un remède de vie, ceux qui craignent le Seigneur le trouvent. Celui qui craint le Seigneur a une véritable amitié, car son ami lui est semblable. Franchement, en toute honnêteté, j'ai bien envie de le lire, de lire l'entièreté de ce texte une seconde fois. Mais comme on va prendre verset par verset, et que je pense que ça va être un peu long, je ne crois pas que ce soit nécessaire. J'aime beaucoup ce texte. J'aime vraiment beaucoup ce texte, et j'espère que j'arriverai à vous communiquer cet amour raisonnable que j'ai pour ce texte, parce que celui-ci contient vraiment pour moi tout ce qu'il faut savoir pour gérer ses amitiés et ses relations. Et quand je dis relations, c'est ses relations humaines, pas les relations amoureuses. Et du coup, j'ai limite envie que vous le preniez comme un texte, comme un traité, comme un manifeste de l'amitié, et pas uniquement comme des versets de la Bible que je vais vous lire. Je ne sais pas si c'est le meilleur texte dans la Bible concernant l'amitié, mais moi, par rapport à cet épisode, c'est vraiment le texte que j'ai eu envie d'étudier et c'est le texte que j'ai eu envie de partager. Donc, comme je vous ai dit, je ne sais pas si on peut parler de méditation à proprement dit, mais c'est quand même une étude qu'on va faire. Du coup, moi, je vais vous recommander de prendre un truc pour noter, parce que je pense que c'est quand même le genre de podcast qui va vous inviter à une petite réflexion pour pouvoir, à la fin de cet épisode, avoir les outils qu'il faut pour mieux gérer vos relations. Donc, voilà, on y va pour la petite analyse. Donc, le premier verset, le verset 5, dit « Une parole douce fait beaucoup d'amis et la langue aimable est riche d'amabilité. » L'idée, c'est en gros que, en parlant gentiment, on se fait beaucoup d'amis, avec un langage aimable, on va recevoir des réponses agréables. Je crois que c'est à peu près comme ça même que la phrase est formulée dans la Bible en français courant. Et moi, honnêtement, je trouve que ça, c'est typiquement le genre de phrase qui est assez claire dans ce texte que j'ai choisi. L'idée ici, c'est vraiment que c'est ce que tu envoies comme énergie aux gens, c'est le type d'énergie qu'on va te renvoyer. C'est vraiment l'idée que la manière dont tu vas traiter les autres détermine en grande partie la manière dont les autres vont nous traiter en retour. Je pense que philosophiquement, ça rappelle des concepts comme le karma ou la règle d'or qu'on connaît normalement tous ici, qui est « fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse ». Donc en étant aimable, on crée un environnement propice à des échanges positifs, ce qui nourrit le cycle de la bienveillance qui va créer et renforcer les liens d'amitié. Donc je pense que ça souligne aussi que quelque part, les débuts d'amitié ne sont pas sans raison. On n'est pas forcément dans le côté intéressé de l'amitié, mais vraiment dans le côté de tu ne deviens pas ami avec une personne pour rien. Parce que c'est l'amabilité, la gentillesse que tu vas dégager envers une personne qui va commencer à créer le lien entre vous, qui va commencer à aider à créer cette amitié. Mais ça ne veut pas dire que tu vas être ami uniquement parce que la personne est gentille avec toi. Mais ça peut aider à créer le lien qui va faire naître votre relation. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'est ce que j'avais à dire pour le verset 5, qui, comme je l'ai dit, je trouve qu'il est vraiment très simple à comprendre. Ensuite, le verset 6, que je trouve quand même plus intéressant, dit « Qu'ils soient nombreux, ceux qui vivent en bon rapport avec toi, mais prends conseil d'un seul entre mille. » Qu'ils soient nombreux, ceux qui vivent en bon rapport avec toi. Le terme « bon rapport » et quand on dit « ils sont nombreux, ceux qui vivent en bon rapport avec toi », ça souligne vraiment le fait qu'on parle des personnes avec qui tu es en bon terme. Donc, les connaissances, les camarades, les amis, les frères, les sœurs. Il faut que vous soyez en bon terme si possible avec tout le monde. Que vous n'ayez pas de problème avec les gens. Mais ça ne veut pas dire que toutes ces personnes avec qui vous vous entendez bien sont vos amis. Raison pour laquelle vous ne devez pas raconter vos secrets à tout le monde. Supplément, vous ne devez pas demander conseil à n'importe qui. Et là déjà, on commence un peu avec cette idée comme quoi l'amitié invite à la prudence et à la réflexion. Et là, je vais un peu plus développer cette idée. Donc déjà pour moi, cette phrase-là, ce verset-là, il reconnaît la nécessité, genre vraiment la nécessité de vivre en harmonie avec beaucoup de gens. Et vivre en harmonie avec beaucoup de gens, c'est une partie essentielle de la vie sociale. Et l'homme est un animal sociable. Donc ça va, c'est-à-dire que ce verset, il va quand même encourager à une large sociabilité où l'on entretient des relations agréables et cordiales avec beaucoup de personnes. Il y a des gens qui vont vous parler de réseautage, de connaître tout le monde, qu'aujourd'hui c'est les relations, genre les relations que tu te fais par exemple justement à l'université ou dans ce genre de milieu, ce sont les relations qui vont te servir demain, etc., etc. Parce qu'on est vraiment sur du relationnel, on est vraiment sur la large sociabilité et on est vraiment sur des relations agréables et cordiales avec beaucoup de personnes. Mais en même temps, ce verset met aussi en contraste la sociabilité avec l'idée d'une amitié ou d'une relation beaucoup plus profonde et beaucoup plus réfléchie. Voilà, j'essaie de trouver le terme adéquat, mais c'est vraiment beaucoup plus réfléchi. Donc, qui est symbolisé par le fait de prendre conseil d'un seul entre mille. Donc, ça veut dire que bien que de nombreuses relations soient utiles, donc avec le concept de réseautage et compagnie, et enrichissantes, il y a très peu de personnes, finalement, qui méritent une confiance totale ou un rôle de conseiller intime. Deuxièmement, parce que là, on va dire que c'était un premier point. Donc, deuxième point, on peut dire que cette phrase souligne aussi la rareté de la sagesse véritable et des personnes dignes de confiance. Je trouve que un seul entre mille, ça suggère d'une certaine façon, en tout cas pour moi, que trouver une personne vraiment sage et digne de donner des conseils est exceptionnel. Et ça renforce vraiment l'idée que la majorité des relations que nous entretenons peuvent être superficielles ou basées sur des intérêts communs, mais ne sont pas nécessairement des sources de sagesse ou de soutien moral profond. Et c'est ainsi une approche prudente de la vie, où l'on doit être sélectif, mais genre vraiment, quant à ceux à qui l'on confie ses pensées les plus intimes, ou des personnes chez qui l'on prend conseil. Et ça s'inscrit vraiment dans une tradition, si je peux dire ça comme ça, on va dire tradition de pensée, entre guillemets, où l'individu doit s'entourer des personnes de qualité plutôt que des personnes de quantité pour prendre des décisions importantes et être pour être guidé moralement à certains moments clés de sa vie. Et il y a aussi le côté comme lequel la réflexion et la prise de décision doivent parfois être plus ou moins solitaires, c'est-à-dire guidées par un seul mentor ou un seul ami de confiance plutôt que par un groupe. Ça montre la valeur vraiment d'une voix sage et expérimentée par rapport aux opinions multiples et souvent moins réfléchies. En général, plus vous allez essayer de parler de votre situation à plusieurs de vos amis pour du coup avoir plusieurs avis pour trancher, plus vous allez être dans le flou. Parce que c'est vraiment mieux de parler à une seule personne, vous savez que c'est, on va dire, c'est la voix sage de votre entourage. Ça peut être votre maman, ça peut être, je sais pas moi, si vous avez un grand frère ou une grande soeur, ça peut être un ami. En tout cas, il faut vraiment que ce soit une personne entre mille. Et je pense que là, c'est assez clair. C'est assez clair. Et je pense que, du coup, là, pour ces deux premiers versets, vous pouvez déjà me mettre en pause. En tout cas, moi, je vous invite à me mettre en pause et à essayer de voir dans votre groupe d'amis où en êtes-vous et quel genre de personne êtes-vous? Quel genre de personne vous êtes? Est-ce que vous êtes la personne qui a des paroles aimables? Est-ce que vous êtes la personne qui dit tout à tout le monde, qui se confie trop vite, qui donne sa confiance trop rapidement et qui, du coup, en général, finit par être blessée ou par se rendre compte que elle aime beaucoup plus et se confie beaucoup plus que la personne qui est en face? Parce que souvent aussi, ce qu'on a du mal à réaliser, c'est qu'on doit vraiment donner de l'amour à la hauteur de ce qu'on reçoit en termes d'amour. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aussi être dans une relation où c'est toujours vous qui demandez conseil, c'est toujours vous qui racontez votre vie, c'est toujours vous qui faites des compliments, c'est toujours vous qui faites le premier. Ce n'est pas une chorégraphie, ce n'est pas un ballet, c'est une relation réciproque. Du coup, si vous voyez aussi que par exemple dans votre groupe d'amis, entre gros guillemets, c'est toujours vous qui, il faut peut-être se poser les bonnes questions. Et essayer de voir de façon objective où vous en êtes et ce qu'il en est. Donc voilà. Si vous avez besoin de quelques minutes de réflexion, moi je vous invite à me mettre en pause. Et après, vous me remettrez sur play quand vous aurez affiné votre réflexion à partir des différentes directives, si je peux dire ça comme ça, que j'ai données. Du coup, on va passer au verset 7. Le verset 7 qui dit: Si tu veux acquérir un ami, acquiers-le en l'éprouvant et ne te confie pas à lui à la légère. Acquiers-le en l'éprouvant et ne te confie pas à lui à la légère. Déjà, moi, je tiens à dire que acquérir, le mot acquérir pour parler d'amitié, c'est hyper fort. Je sais pas vous, mais moi personnellement ça m'a. J'ai lu et puis j'étais en mode. Ah ouais, quand même. C'est hyper fort. Parce que je vais vous dire la définition du mot acquérir. Acquérir, ça veut dire devenir propriétaire d'un bien, d'un droit, par achat, échange, succession. Exemple, acquérir une propriété. C'est aussi obtenir, par l'effort, par le temps, quelque chose d'intéressant. Donc, synonyme, on a gagné, mérité. Et éprouver, ça veut dire mettre à l'épreuve. En synonyme, on a expérimenté et essayé. Donc, ici, c'est vraiment l'amitié que tu. C'est. Oh là là, j'arrive même pas à trouver de mots tant. Bref, c'est l'idée que l'amitié que tu veux, tu dois la mettre à l'épreuve. Tu dois te battre, entre guillemets, pour l'avoir. Et. On revient vraiment à l'idée développée juste avant de tu ne dois pas te confier trop facilement. Et on comprend que donner le titre d'ami à quelqu'un, c'est quelque chose qui prend finalement du temps. Ce n'est pas un titre à donner vite. La phrase dit qu'une amitié authentique ne doit pas être prise à la légère. Et comme je vous ai dit, l'idée d'éprouver, c'est aussi fort et. Donc l'idée d'éprouver un ami, ça implique un processus, si je peux dire, de discernement et de test avant de conférer une confiance totale à quelqu'un. C'est l'idée que la confiance n'est pas un bien donné d'emblée, mais plutôt quelque chose qui se mérite par des actions concrètes et des preuves, je sais pas moi, des preuves de loyauté, d'honnêteté, de soutien mutuel. Et le terme, en fait, si on peut dire ça, c'est comme si avoir un ami, obtenir un ami est comparé à un processus d'acquisition. Ce qui montre que l'amitié est vue. Enfin, l'amitié est vue. Oui, c'est vu ici, mais c'est surtout que c'est le cas. C'est pas juste une simple vision des choses. C'est quelque chose de précieux. C'est presque un trésor qu'on doit chercher et préserver et entretenir. Et dans ce sens, l'amitié véritable est rare et ne doit pas être prise à la légère. Et ainsi, de la même façon dont la personne à qui tu dois demander les conseils et la personne que tu choisis pour te donner des conseils est une personne rare, avec une personne rare avec une relation exceptionnelle, de façon plus générale, trouver une véritable amitié, c'est quelque chose de rare qui ne doit pas être pris à la légère. Et ça peut faire écho. Parce que moi j'aime beaucoup la philo, donc je me suis débrouillée pour plaquer des trucs de philo dedans. Et ça peut faire écho du coup aux idées de philosophes comme par exemple Aristote. Aristote, c'est un mec, il considérait l'amitié véritable, basée sur la vertu, comme un bien rare et précieux. Et en même temps, la phrase exprime aussi une certaine méfiance, ou une certaine, si je sais pas si je peux dire, une certaine précaution initiale avant de s'ouvrir complètement à quelqu'un. Donc ça va vraiment dans la continuité du verset qu'on a analysé juste avant. Cela montre une attitude de protection envers soi-même qui reconnaît, qui admet que finalement toutes les relations humaines ne sont pas forcément fondées sur de la bienveillance. On peut aussi avoir une critique implicite de l'amitié superficielle ou de l'empressement finalement à faire confiance et à donner son amitié sans aucun discernement. Et l'idée d'éprouver, encore une fois, un ami, ça peut signifier que le temps et les épreuves révèlent la vraie nature des relations. Dans cet épisode que j'ai... Je vous expliquerai un peu dans la conclusion pourquoi j'ai décidé de le faire en deux parties. Mais dans cet épisode, je pense qu'une phrase que je vais répéter beaucoup, c'est que les gens savent très bien se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Les gens savent très bien se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Et c'est en étant amis avec les gens, en les côtoyant et justement en les éprouvant, en ayant des sortes de situations difficiles qui vont du coup éprouver votre relation, qui vont vous permettre de vérifier la solidité de vos relations. Ce sont des petits moments en fait qui vont vous permettre de voir, si je peux dire, le vrai visage des gens. Vraiment voir le vrai visage des gens. Parce que quelqu'un peut cacher sa vraie nature, mais il y aura toujours un jour où... Je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire. Sa vraie nature va sortir en fait. Sa vraie nature va finir par sortir. Et c'est un concept qui est souvent exploré, je sais pas moi, dans la littérature par exemple, où c'est lors des épreuves que les vrais amis se révèlent en fait. Et du coup, toujours dans la continuité, parce que ce qui est vraiment bien avec ce texte, c'est que même quand tu fais l'analyse, tu te rends compte de comment est-ce que les choses se complètent en fait. Donc le verset 8, qui est le verset suivant, dit « Car tel est ami à ses heures, qui ne le restera pas au jour de ton affliction. » Bon, au départ, ça m'avait tellement dérangé qu'il n'ait pas écrit « Tel est un ami à ses heures. » Mais bref, donc « Tel est ami à ses heures, qui ne le restera pas au jour de ton affliction. Là, vraiment, pour moi, on est vraiment dans la continuité de notre pensée. Vraiment, la continuité de l'amitié, c'est quelque chose qui s'éprouve. Et ici, comme on n'a pas, on va dire, on n'a pas de déterminant, on est vraiment sur, on va dire, une amitié quelconque, une amitié générique, une amitié qu'on peut prendre comme exemple pour illustrer, pour étayer ce qu'on va dire. Donc, il y a aussi le côté, déjà dans cette phrase, il y a aussi le côté que certains amis sont là pour un certain temps, pour une certaine saison avant de partir. Et certains de nos amis, au jour de nos souffrances, du coup, partent. Et cette phrase, elle suit directement l'idée de choisir un seul conseiller digne de confiance parmi mille. Ça approfondit la réflexion sur la nature de l'amitié véritable en mettant en garde contre les faux amis ou les amitiés superficielles. Qui se dévoile entre guillemets au jour de l'épreuve. Et je trouve que ça apporte quelque part une perspective plus sombre, entre guillemets, mais vraiment réaliste sur la condition humaine et les relations sociales. Donc, on va faire par points. Le premier point déjà, c'est que moi je pense que la phrase, elle souligne que certaines amitiés sont circonstancielles. Donc là, on va vraiment développer les quelques phrases que je viens de dire. Donc, un ami à ses heures est quelqu'un qui se comporte comme un ami lorsqu'il est facile d'être présent. Lorsque c'est facile d'être présent, lorsque tout va bien. Ces relations sont basées du coup sur des situations, on va dire, agréables, des situations où c'est facile d'être ami, ou des intérêts communs. Mais finalement, ce sont des relations qui manquent de profondeur et de solidité. Il y a des personnes avec qui vous pouvez être en train de parler tous les jours, mais vraiment tous les jours. Mais quand vous allez regarder en fait vos conversations et le type de relation que vous avez, vous allez vous rendre compte que vos relations manquent de profondeur et de solidité. Vous ne pouvez pas être deep avec ces personnes, si je peux dire ça comme ça. Vous pouvez pas être deep deep avec eux en fait. Et je pense aussi que cette idée, ça reflète une vision plus ou moins sceptique de certaines relations humaines où l'engagement et le soutien peuvent disparaître lorsque les circonstances deviennent difficiles. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a tous plus ou moins vécu. Et donc, numéro 2, on va passer sur le jour de ton affliction. Le jour où tout se gâte. Le jour où tu vois que tout laisse. Et le jour de ton affliction, du coup, ça symbolise les moments de crise ou de difficulté. Les moments qui sont durs à vivre. Et c'est dans la même, hein, c'est un peu l'idée du test en fait des relations. Ces moments sont finalement des moments révélateurs de la véritable nature des relations que vous entretenez et de la véritable identité, si je peux dire ça, des personnes que vous côtoyez. Une affliction ou une épreuve personnelle devient un test de l'authenticité de l'amitié. Le texte, donc, on va dire ça comme ça. Donc le texte suggère que c'est dans ces moments de vulnérabilité que l'on découvre aussi une personne et un ami véritable ou simplement une connaissance de circonstances. Et c'est tellement vrai. C'est quand vous allez vous retrouver dans des moments difficiles que vous allez voir qui sont vos amis. Là, on n'est même pas dans qui sont vos amis, qui sont vos ennemis. On est juste sur qui sont vos amis. Parce que c'est pas parce que quelqu'un n'est pas ton ami qu'il est nécessairement ton ennemi, en fait. Et ça, c'est vraiment une idée qui est souvent exploré dans la littérature, comme je vous ai dit, où les personnages vont découvrir la loyauté ou pas de leurs amis au moment de l'adversité. Et cela peut aussi évoquer l'idée que la souffrance ou l'affliction, du coup, c'est souvent un moment de solitude. On en a parlé en long et en large dans l'épisode 0. De comment est-ce que l'épreuve de la souffrance, de l'affliction, ça peut être un moment de solitude où en fait tu réalises que même parmi les nombreuses ou pas parmi les quelques relations que l'on entretient, il y a finalement très peu de personnes qui sont prêtes à rester à nos côtés dans les moments les plus difficiles. Et parfois, c'est juste nous. La personne, c'est-à-dire nous-mêmes, on se rend compte en fait dans les moments difficiles qu'on est seul et qu'on est là et on ne sait pas à qui parler, on ne sait pas vers qui se tourner, on ne sait pas comment poser des mots sur ce qu'on ressent. Donc, ce n'est pas toujours les autres. Parfois aussi, c'est nous. Parfois, c'est nous qui ne laissons pas forcément l'opportunité aux autres de, on va dire, de nous aider. Mais je pense que ce n'est pas plus mal parce que parfois dans la vie aussi, il y a des combats qui se vivent et qui se règlent seuls. Je pense. Et donc, voilà. Donc, c'est vraiment une réalité qui souligne la nécessité de discerner, du coup, les vrais amis des faux, comme évoqué dans les différentes idées précédentes. Et tout ça met vraiment en lumière la fragilité et l'incertitude des relations humaines. C'est vraiment, comme je vous ai dit au tout début de l'épisode, la réflexion qui m'a fait. Essayer de. Enfin, qui m'a poussée à vraiment réfléchir sur comment est-ce que j'allais faire l'épisode d'aujourd'hui, c'est le côté l'amitié évolue avec le temps. L'amitié, vraiment, on grandit, on est pour la plupart à l'université, en tout cas, on est des jeunes adultes, on grandit, etc. L'amitié n'a plus du tout les mêmes enjeux que ce qu'elle avait quand on avait 6, 5 ans et que, je sais pas moi, on jouait dans la cour de récréation au primaire. Et tout ça nous rappelle vraiment que. La plupart des relations ne sont pas aussi solides que ce qu'elles peuvent paraître être, et qu'il est prudent, genre vraiment, c'est plus prudent de ne pas trop compter sur l'engagement des autres. Il s'agit d'une sorte de mise en garde contre les attentes irréalistes envers les autres. C'est vraiment une attente à être, on va dire, réaliste sur la nature changeante des relations. C'est un fait qu'il faut accepter. L'être humain est quelqu'un qui change, les relations sont des liens qui changent, et vous devez quelque part vous garder à l'esprit que les amitiés ont vraiment des natures fluctuantes. Donc il faut vraiment que vous soyez prudent dessus. Pas parce que toutes vos amitiés vont forcément être détruites du jour au lendemain, c'est pas ça. Mais c'est juste que en étant prudent et en analysant plus, vous prenez moins de risques d'avoir mal le jour où, on va dire, tout se gâte, en gros guillemets, si jamais cette amitié est vouée à se gâter. Et comme je vous ai dit, en amitié aussi, il faut parfois noter que c'est parce que c'est plus facile de mettre la faute sur les autres, mais en amitié, on ne peut pas tout attendre des autres. Les gens peuvent aussi vous soutenir dans la limite de ce qu'ils peuvent faire. Et il faut vraiment que vous le gardiez à l'esprit. Il y a des gens qui veulent vous aider et qui veulent être là pour vous, mais c'est juste que ils sont dans la limite de ce qu'ils peuvent faire. Et voilà, ça ne veut pas forcément dire que ce ne sont pas vos amis. Ça veut juste dire que vous savez les sujets dont vous pouvez parler avec eux, les dimensions que vous pouvez explorer avec eux ou pas. Et du coup là, dans tout ça, j'ai trouvé deux exemples qui étaient intéressants. Donc un exemple, on va dire mondain, qui est un exemple d'un livre, et un exemple, du coup, de la Bible. Même si j'avais dit que j'allais me centrer sur un seul texte de la Bible et ne pas avoir genre plein de références bibliques comme d'habitude. Bref, j'ai trouvé intéressant d'avoir quand même deux exemples. Donc, le premier exemple, c'est l'exemple du Comte de Monte Cristo. Le Comte de Monte Cristo, c'est un livre d'Alexandre Dumas. Enfin, oui, c'est le livre d'Alexandre Dumas et le personnage principal est le Comte de Monte Cristo. J'ai oublié comment, je sais plus comment on appelle ça quand le titre du livre et le titre du personnage principal. Je vais pas raconter n'importe quoi, donc je ne vais pas tester de mots. Mais voilà, on a l'exemple du Comte de Monte-Cristo. C'est un livre du 19e siècle, du coup. Et dans ce roman, on a Edmond Dantès, qui est le protagoniste et le personnage principal, qui va subir une trahison profonde de la part de ceux qu'il considérait en fait comme ses amis, comme sa famille. Quand il est faussement accusé et emprisonné, il va découvrir que les deux personnes qu'il croyait proches, mais genre vraiment les plus proches de lui, donc je crois c'est Danglars, Fernand et Villefort, étaient en fait ses ennemis. C'est en fait à cause d'eux qu'il s'est retrouvé en fait enfermé en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. Et l'œuvre explore donc comment est-ce que la véritable nature des relations se révèle dans les moments de crise et quelles conséquences ça peut avoir sur la personne. Parce que du coup, pendant tout le livre, on va observer Edmond Dantès, futur comte de Monte-Cristo, qui va mettre en œuvre tout un stratagème de vengeance et de haine. Bref, parce que du coup, lorsqu'il va être libéré de prison, il va utiliser son nouveau statut pour tester du coup la loyauté des nouvelles personnes qui vont l'entourer et chercher à se venger du coup des personnes qui lui ont fait ce coup de pute, faut le dire. Et ce roman illustre donc parfaitement l'idée que les amis de circonstance peuvent disparaître ou se retourner contre vous en temps de besoin et que seuls quelques-uns restent fidèles en période d'adversité. Donc c'est vraiment un livre très 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 intéressant pour moi. Il a eu une adaptation récemment au cinéma, donc vous avez dû en entendre parler. Et j'ai regardé le film, et donc je vous invite à aller regarder le film qui est vraiment très très bien. Maintenant, dans cette idée de l'amitié de saison, l'ami à 16 heures, il y a, enfin, l'ami à 16 heures, c'est SES heure, parce que j'ai trouvé que prononcer finalement c'était pas bon. Bref. Donc, l'ami à 16 heures, il y a. En fait, ça fait 16 heures. Bref, pardonnez, excusez-moi. Donc, on a Abraham et Lot. L'histoire d'Abraham et Lot, tirée de la Bible dans le livre de la Genèse, est pour moi un exemple vraiment intéressant de ce que l'on pourrait appeler une amitié de saison. Quand j'étais en train de préparer cet épisode, c'est vraiment l'exemple qui m'est venu à l'esprit. Donc, je me suis dit, ah, je vais rester dessus. Donc, c'est-à-dire ce qu'on appelle une amitié de saison. C'est une relation qui existe pour une période de votre vie, pour un moment donné, pour un objectif précis dans le plan de Dieu, que vous en ayez conscience ou pas. Et c'est une relation qui va exister tant que les circonstances plutôt, oui, tant que les circonstances seront favorables, mais qui va finir par se dissoudre lorsque les intérêts vont finir par diverger. Je vais essayer de vous faire une petite contextualisation de l'histoire pour que vous puissiez bien comprendre. Donc Abraham, bon à l'époque il s'appelait pas encore Abraham, il s'appelait Abram. Et Lot, son neveu vont partir ensemble dans la ville d'Ur et vont voyager ensemble à travers Canaan. Ils vont vraiment partager des nombreux moments de réussite. Ils vont vivre en harmonie pendant un temps. Vraiment, leurs troupeaux vont prospérer, leurs richesses vont augmenter. Ça va créer une situation de prospérité commune. Et puis Abraham, à l'époque, du coup, il était vraiment attaché à son neveu. Il l'aimait vraiment beaucoup, Lot. Et ils avaient vraiment une relation d'entraide et de solidarité. J'ai envie de vous dire, c'était une amitié. C'était une vraie amitié. En tout cas, pour moi, c'était une vraie amitié. Mais cependant, cette prospérité croissante, elle va finir par conduire à un problème. Ils vont se retrouver dans une situation où leurs troupeaux vont devenir si grands que la terre qu'ils partagent, en fait, ne peut plus subvenir à leurs besoins mutuels. Donc, les bergers d'Abraham et ceux de Lot vont commencer à se disputer. C'est alors qu'Abraham va proposer une séparation pacifique pour éviter que leur relation ne se détériore à cause de ce problème. Et il va donc dire à Lot, enfin, il va laisser Lot choisir la terre où il a envie de s'installer. C'est une nouvelle terre où il a envie de s'installer. Donc, Lot va choisir la vallée du Jourdain, qui est une vallée qui semble du coup plus fertile, plus prometteuse, plus fancy en fait, plus wow, plus à propos de faire prospérer lui, son pâturage et ses biens. Et Abraham va donc prendre le reste du pays de Canaan, qui du coup, on va dire, était moins bien. Et à ce moment, leurs chemins vont se séparer. Ça va symboliser la fin de leur proximité. Et ce choix de Lot de prendre la meilleure terre peut être vu comme vraiment un signe de son intérêt personnel. Et c'est tout ça qui met en lumière vraiment la fragilité de leur relation. C'est ça qui va mettre en lumière la fragilité de leur relation. Et voilà. Mais après, le truc, c'est que du coup, à partir de là, Lot et Abraham, ils vont plus jamais entretenir les mêmes rapports. Il y a quelque chose dans leur amitié qui va se briser. Mais Lot et Abraham étaient ensemble pour un certain temps parce que, on va dire, chacun avait quelque chose à accomplir dans la vie de l'autre. Ils devaient être ensemble pour accomplir des choses ensemble selon le plan que Dieu avait prévu pour Abraham. Parce que je sais pas c'est quel plan Dieu avait prévu pour Lot, mais Abraham, nous tous, on connaît le plan qu'il avait prévu pour lui. Donc, c'est ça. Et il faut aussi souligner que finalement, malgré leur séparation, Abraham est une personne qui est restée c'est une personne qui est restée prête à aider Lot. Par exemple, lorsque Lot va être capturé lors d'une guerre entre rois, donc ça je crois c'était en Genèse 14 ou 15, un truc comme ça, Abraham va pas hésiter à rassembler ses hommes pour le secourir. Et cela, ça montre qu'il y a encore des restes d'affection ou de loyauté, même si la proximité quotidienne et le partenariat qu'ils avaient autrefois n'est vraiment plus le même. Mais là, ça rejoint vraiment l'idée du début. Tu dois être en bon rapport avec tout le monde. Il y a des amitiés de saison, elles sont là pour un certain moment, elles sont finies, mais c'est pas parce que l'amitié est finie dans de mauvaises conditions ou dans des circonstances plus ou moins bizarres que ça veut dire que tu dois pas rester une personne disponible pour celle qui t'a enfin oui, pour celle qui t'a fait du mal. Faut savoir pardonner. Faut savoir pardonner, avancer et passer à autre chose. Du coup, ce verset-là, cette phrase, elle va mettre en garde contre la superficialité de certaines amitiés qui ne survivent pas, en fait, à l'épreuve des moments difficiles. Ça va souligner que le véritable test de l'amitié, et donc c'est vraiment la capacité, en fait, à rester fidèle et présent dans les moments difficiles, dans les moments d'affliction. Et ça renforce vraiment l'idée que la vraie amitié, c'est comme une perle rare, c'est précieux. Et la plupart des relations ne sont pas aussi solides que ce qu'on pourrait le penser, enfin, ne sont pas aussi solides que ce qu'elles semblent en fait en période de prospérité, dans la période où tout va bien. Du coup, là, on a fini avec le verset 9 et on va passer. Non. On a fini avec le verset 8. Voilà. On a fini avec le verset 8 et on va passer au verset 9. Le verset 9 dit: Tel est ami qui deviendra un ennemi et qui révélera votre différend à ta confusion. Tel est ami qui deviendra un ennemi et qui révélera votre différend à ta confusion. Le verset du retournement de veste. En fait, dans la Bible Tob, qui est la Bible en général, que toutes les mamans catholiques ont, ils ont effectué un parallèle avec Proverbe 25, les versets 9 à 10, que je vais aussi vous lire avant de rentrer dans l'analyse et ce que ça m'a inspiré. Donc, encore une fois, selon les versions, les termes vont varier, mais c'est vraiment la même idée. Donc, Proverbe 25, versets 9 à 10, dit: Si tu te disputes avec ton voisin, règle ton problème avec lui, mais ne raconte pas ce qu'un autre t'a confié. Sinon, celui qui t'attend peut t'insulter et tu ne pourras pas rattraper ce que tu as dit de mal. Tu dois avoir toi-même conscience, fin de lecture, fin de citation, tu dois avoir toi-même conscience que quand quelqu'un te dit quelque chose d'important, tu n'as pas à aller le dire à quelqu'un d'autre. Il faut en avoir conscience. Il faut vraiment en avoir conscience et c'est une discipline personnelle. Quand on vous dit les choses, n'allez pas répéter. N'allez pas répéter, même si c'est dur, même si vous... N'allez pas répéter parce que si la personne vous a dit ça, ça veut dire qu'elle a confiance en vous. Et vous-même, vous n'aimeriez pas vous confier à quelqu'un et que cette personne aille répéter vos secrets aux autres. Donc si quelqu'un a considéré que tu es son ami et qu'il te dit des choses personnelles, tu n'as pas à le dire aux autres. Et ça, c'est vraiment l'idée commune que partagent ce verset 9 et Proverbe 25, versets 9 à 10. Donc, bon, ça, c'était la... C'était... Je sais même pas comment nommer ça. Mais bref, ça, c'est vraiment l'idée commune que ces deux versets partagent. Mais comme le verset 9 a commencé avec, en gros, l'idée du retournement de veste, l'idée de tout laisse, l'idée de l'ami qui devient un ennemi, on va aussi se concentrer dessus. Et du coup, il faut dire que l'ennemi, au-delà d'être la personne qui t'est opposée, parce qu'en général, l'ennemi, c'est la personne qui t'est opposée. En gros, même quand vous regardez les films et tout, le méchant, le gentil, le méchant, c'est l'ennemi du gentil parce que c'est la personne qui lui est opposée. Donc, l'ennemi, c'est vraiment la personne qui t'est opposée. Mais c'est surtout, en fait, la personne qui cherche à te nuire. C'est la personne qui cherche à te faire du tort. C'est la personne qui, en fait, est un danger pour toi. L'ennemi, c'est la personne qui est un danger pour toi. L'ennemi, enfin, on va, voilà, on va s'arrêter là. Ça, c'est ce qu'on peut dire sur l'ennemi, parce qu'on va pas, voilà. Donc vraiment, l'ennemi, c'est la personne qui cherche à te nuire. C'est la personne qui veut te faire du tort. Il y a volonté de nuire, il y a volonté de te faire du tort. Il y a volonté d'être un danger pour toi. Et c'est l'ami qui va raconter vos disputes. C'est l'ami qui va raconter vos palabres aux gens pour le plaisir de salir ton nom. C'est l'ami qui, lorsqu'il... C'est l'ami qui est pour ta confusion, en fait. C'est l'ami qui est heureux de se dire qu'il sème le désordre dans ta vie. C'est l'ami qui se dit que s'il a réussi à semer la discorde dans tes relations, c'est bien. Et voilà, qui révélera votre différend à ta confusion. Ça veut dire que s'il peut faire quelque chose pour te faire du mal, il va faire. Donc cette phrase va vraiment continuer de développer le thème de la prudence dans les relations amicales. Au départ, j'avais pas réalisé à quel point le thème de la prudence était présent dans ces premiers versets, mais en fait, c'est hyper présent. C'est vraiment le thème de la prudence dans les relations amicales. En mettant donc en garde contre une forme d'amitié qui est encore plus dangereuse, l'amitié qui se transforme en inimitié. En d'autres termes, l'amitié qui t'a laissé. Donc philosophiquement et littérairement, ça va souligner en fait les risques qui sont les risques qu'il faut prendre en compte en fait dans une amitié, notamment la possibilité que des conflits personnels se transforment finalement en trahison avec des amplitudes très 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 grandes. Donc, je pense là, on va faire plusieurs points. Le premier point, c'est vraiment l'instabilité de certaines amitiés. Donc, c'est encore une fois... On fait face en fait à la nature instable et parfois imprévisible de certaines relations. L'idée que l'ami deviendra un ennemi va suggérer en fait que les liens amicaux, surtout ceux qui ne sont pas basés sur une véritable confiance ou une affinité profonde, peuvent rapidement se dégrader en hostilité. Cela nous rappelle que l'amitié n'est pas toujours un état, en fait, c'est pas toujours un état permanent où tout est beau, tout est rose, et que certaines amitiés peuvent cacher des tensions latentes qui finissent par éclater. Parfois, vous pensez que vous êtes ami avec une personne et qu'il n'y a pas de problème et que tout va bien, alors que non. Et je vous assure que si vous êtes attentif à certains signes et à certains, ouais, à certains signes dans la relation que vous entretenez avec ces personnes-là, vous allez sentir la douille venir. Vous allez vraiment sentir la douille venir. Et cette transformation de l'ami en ennemi, littéralement, même cinématographiquement, dans la vie, même de façon générale, c'est un thème classique. C'est un thème classique auquel tout le monde a déjà dû faire face ici, ou tout le monde a déjà dû entendre une histoire dessus. Les relations humaines sont présentées comme changeantes, en fait. Et c'est vrai, c'est hyper vrai. Pardonnez-moi. Prenez-moi comme une petite sœur. Voilà. Donc, les relations humaines sont changeantes. Les amis d'hier peuvent devenir en fait les adversaires de demain. C'est triste, hein? Mais c'est la vie qui est là. Genre, vraiment, ça renvoie à une conception tragique de la vie où la trahison peut survenir. Peut subvenir. Qu'est-ce que je raconte? En tout cas, la trahison peut surgir de là où l'on attend le moins. Parce que finalement, c'est ceux qui vous connaissent le mieux qui sont le plus susceptibles. Ouais, le plus susceptible de vous détruire. Parce que ceux qui vous connaissent le mieux ont plus d'outils, en fait, pour vous faire du mal. Ensuite, la deuxième partie de la phrase qui révélera votre différend à ta confusion, bon, c'est la trahison qui est là, hein. C'est la trahison qui est là. Et comme on l'a dit, c'est la vulnérabilité qui est inhérente même à l'amitié. Lorsque l'on confie ses secrets ou ses différends personnels à quelqu'un, on devient vulnérable. On s'expose à une vulnérabilité. Et si cet ami devient un ennemi, il va utiliser ces informations pour vous causer du tort ou de l'embarras, ou juste pour le plaisir de vous faire mal, en fait. Voilà. Et la confusion fait référence, du coup, on va dire, ça fait référence à l'humiliation ou au désarroi que vous allez ressentir lorsque des informations confidentielles ont été révélées de manière publique ou malveillante. Et parfois, c'est même pas les informations en tant que telles qui font mal, mais c'est, on va dire, la personne qui a révélé ces informations, c'est ça en fait qui crée vraiment le désarroi et la grosse confusion. Et le motif de la trahison, c'est souvent exploré dans les récits où un ancien ami va trahir la confiance du protagoniste. Ça peut être aussi vu comme, je sais pas moi, un avertissement contre la naïveté, voilà en fait, ou la confiance aveugle dans les relations humaines. Les différends qui sont souvent des tensions finalement non résolues deviennent des armes dans la main d'un ancien ami qui devient un ennemi. Et aussi l'amitié, lorsqu'elle va se transformer en inimité, parce que c'est en préparant cet épisode que j'ai découvert ce mot inimité, on va dire, l'amitié lorsque ça te laisse, l'amitié lorsque ça te laisse, l'amitié lorsque elle est brisée, elle disparaît, lorsque ton ami se transforme en ennemi, ça peut créer en fait un sentiment encore plus. C'est tellement destructeur, c'est un lien qui va devenir encore plus destructeur que si la relation n'avait jamais existé. Le ressentiment qui découle de la rupture d'une amitié peut pousser une personne à utiliser ses connaissances intimes pour nuire à l'autre. Et c'est vraiment un rappel que les relations humaines, lorsqu'elles tournent mal, peuvent causer des dégâts émotionnels et sociaux hyper importants. Et implicitement, cette phrase va parler aussi de l'importance de la discrétion dans les relations. En sachant que même un ami hyper proche pourrait devenir un ennemi, il est encore une fois prudent de ne pas partager trop de détails personnels ou des différends qui pourraient être utilisés contre vous plus tard. Ça revient du coup à l'idée, encore une fois, de la prudence dans l'amitié, comme déjà évoqué dans les phrases précédentes. Du coup, là, on va passer au verset 10 et ensuite on va faire le verset 11 et s'arrêter pour aujourd'hui parce que ça fait quand même un bagage assez conséquent avec lequel méditer. J'avais dit, je sais, j'avais dit que j'allais sortir du coup un épisode chaque semaine et qu'aujourd'hui on allait vraiment se focus sur l'amitié. Mais là, il reste. On devrait s'arrêter au verset 17. Je suis au verset 10. On est à 50 minutes. Ça fait beaucoup d'informations. Et je pense qu'il y a des choses quand même importantes à retenir dans tout ce que j'ai dit. Et pour ne pas surcharger votre esprit et le mien d'information, je pense qu'on va s'arrêter au verset 11 et on va faire une seconde partie la semaine prochaine. C'était pas prévu, je viens de le prévoir, de le décider dans cette 50e minute, comme ça, de l'épisode en fait. Du coup, le verset 10 dit « Tel est un ami quand il est assis à ta table qui ne le restera pas au jour de ton malheur. » Bon, après tout ce que je viens de dire, le verset, il est à sa place. Il est à sa place. C'est vraiment la continuité du retournement de veste. C'est vraiment l'idée de celui qui est là uniquement quand tu vas bien, mais qui ne le restera pas au jour où les choses vont mal. Et c'est justement pour éviter ce genre de douleur qu'il faut éviter de se confier à tout le monde, comme dit précédemment. Et encore une fois, il y a des gens qui savent très bien se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Il y a des gens qui savent très bien se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Et il y a certaines situations qui vont finir par les révéler. Et ici, on a vraiment le concept de l'amitié intéressée. Où en fait, vous allez faire face à un individu qui va rester proche tant qu'il bénéficie de la relation. Donc, assis à ta table, c'est vraiment la partie de la phrase qui symbolise en fait la convivialité, l'abondance, les bons moments partagés, la proximité en fait. Ce sont ces amis qui sont proches de toi au point de pouvoir manger à votre table. Parce qu'en général, le côté manger à votre table, en fait, la table, c'est l'endroit où la famille mange en fait. Donc, l'individu qui vient manger à ta table, ici symboliquement, c'est quelqu'un de ta famille. C'est quelqu'un qui a une proximité poussée avec toi. C'est quelqu'un qui est comme un membre de ta famille. En tout cas, c'est une amitié, voilà. On va dire que c'est une vraie amitié. Et ces amis, en fait, profitent finalement de ta compagnie, de ta générosité, je sais pas moi, de ta gentillesse, de ton statut, mais leur loyauté est vraiment conditionnelle. Lorsque les avantages disparaissent, comme lors d'un malheur, ces personnes-là ne seront plus présentes. Et ce type d'amitié est basé sur l'intérêt plutôt que sur une affection ou une loyauté véritable. Et c'est un peu comme au début, comme je vous avais dit, en fonction de comment est-ce que vous vous comportez avec les gens et comment est-ce qu'ils se comportent avec vous en retour, en général, vous pouvez savoir si c'est une personne qui est intéressée ou pas. Si c'est une personne, en fait, toujours quand elle vous envoie un message, c'est parce qu'elle a besoin de quelque chose, c'est parce qu'elle a besoin, je sais pas moi, elle a besoin d'aide, elle a besoin que vous lui envoyez des cours, elle a besoin que vous lui envoyez vos leçons, que vous fassiez ci, ça, ou je sais pas trop quoi pour elle. Ça veut pas dire que c'est une méchante personne, ou que c'est une personne qui... Enfin, ça veut pas dire que là, c'est pas une personne qui est bien. Mais ça veut juste dire que c'est pas forcément votre ami, et que vous ne devez pas forcément lui ouvrir toute votre proximité. Mais en vrai, genre, il y a d'autres conditions aussi intéressées qui peuvent favoriser... D'autres conditions qui peuvent favoriser l'amitié intéressée. Là, j'ai cité les exemples, on va dire, les plus courants et qui arrivent la plupart du temps quand on est dans des milieux scolaires. Donc, on peut se dire aussi que ce verset-là met quand même en avant le contraste entre deux situations opposées. Donc, l'abondance, qui est représentée par le fait de partager un repas, qui est quand même le symbole de prospérité, et le malheur. Donc, le malheur qui est représenté ici par le jour de l'adversité. La table, dans de nombreuses traditions littéraires, est un lieu de partage, de rencontre et de communauté. Voilà. C'est le lieu de joie. C'est le lieu où tout le monde est content, tout le monde se réunit, tout le monde mange, on danse, on rit, on boit. Et cependant, ici, elle devient un symbole de la fausseté de certaines relations. Ceux qui s'y asseyent ne sont pas forcément de vrais amis. Ce contraste souligne aussi l'idée que l'amitié, encore une fois, est parfois mise à l'épreuve par les circonstances. Et parfois même par des circonstances auxquelles vous ne pouvez même pas penser. Et l'adversité va agir, en fait, encore une fois, comme un révélateur de la nature véritable de vos relations. Dans la littérature, c'est... Bon, comme d'habitude, hein, cette idée s'est représentée par des scènes où les personnages riches ou influents vont être entourés de nombreux « amis » entre guillemets, et ces « amis » vont finir par disparaître lorsque leur statut ou leur fortune va changer. Donc c'est vraiment une critique de l'opportunisme des relations humaines. Il faut que vous gardiez à l'esprit que Maintenant qu'on grandit, en plus, on peut vraiment le dire. L'opportunisme. Les gens ne viennent pas vous parler sans raison. Les gens ne viennent pas vous parler sans raison. Les gens ne cherchent pas à créer des liens avec vous sans raison. Et parfois, c'est important que vous ayez à l'idée la raison qui motive votre amitié. Parce que parfois, ça peut être des raisons très simples. Exemple, vous donner de bons conseils. Mais parfois, ça peut être des trucs beaucoup plus compliqués que ça. Et qui rendent du coup des amitiés. Je sais pas comment dire. C'est pas des personnes. Ça fait que vous êtes face à des personnes qui sont là pour profiter de vous et pas là forcément pour vous soutenir. Et ce sont des personnes, du coup, encore une fois, qui vont être amies avec vous lorsque c'est facile et agréable de l'être. Et qui vont se détourner de vous lorsque les temps vont devenir difficiles. Et en général, ces personnes-là, du coup, ce sont des opportunistes. Quand on était au primaire, l'impact d'une personne opportuniste dans ton cercle d'amis ou par rapport à une amitié que tu vas entretenir avec il ou elle, ça va pas avoir une. On va dire, ça peut avoir une portée importante, mais l'impact que ça aura sur toi, c'est vraiment pas le même que l'impact que ça pourrait avoir sur toi quand t'as 18, 19, 20 ans et plus. Donc, c'est vraiment. Vraiment, essayez d'analyser vos amitiés. J'aime pas le dire comme ça, mais il faut vraiment parfois essayer de prendre du recul sur certaines choses et regarder objectivement les choses, vos relations telles qu'elles sont. L'idée que ces amis ne resteront pas au jour du malheur, ça souligne aussi encore une fois l'isolement dans les moments difficiles. Les périodes de malheur ou de crise, ça révèle souvent la solitude de ceux qui traversent ces épreuves. Et on l'a déjà dit. On l'a déjà dit, malheureusement, vous ne pouvez pas tout attendre des autres, mais aussi parfois donner quand même l'opportunité aux gens de vous aider. Essayez de parler, de mettre des mots sur ce que vous ressentez. Essayez de vous confier, même si c'est difficile et même s'il y a certaines épreuves que vous devez vivre seul pour pouvoir mieux grandir et mieux aider les autres plus tard. Donc voilà. On est à 1 heure. Enfin, on est à 56 minutes. On est presque à 1 heure. Donc waouh, quelle bonne idée d'avoir décidé de faire 2 parties. Mais c'est surtout que quand je prépare les épisodes comme ça, finalement, ça me demande. Ça me plaît en fait de préparer les épisodes. Mais c'est surtout que je prie. Je prie quand même beaucoup pour savoir si je suis sur la bonne voie. Si je suis en train de partager ce que Dieu veut que j'ai envie de partager avec vous. Les versets, en général, ils me viennent littéralement à l'esprit pendant que je suis en train de préparer les épisodes. C'est vraiment un travail qui me demande beaucoup de discernement et c'est pour ça que je n'ai pas envie de le bâcler. Et je trouve que la façon dont je me suis quand même appuyée sur ces 5 versets, parce que ce n'est que 5 versets, sur ces 5 versets, afin de pouvoir partager quelque chose avec vous qui va quand même vous donner certaines directives. C'est un travail que j'ai fait en prenant beaucoup de temps et j'ai l'impression que je n'ai pas fait ce même travail-là pour les 7 ou 6 autres versets qui restent. Et déjà que c'est long, je préfère du coup vous laisser une semaine avec ça et faire une deuxième partie. Donc, on va faire une petite conclusion partielle, voilà, pour terminer l'épisode d'aujourd'hui. Et j'ai trouvé que ce qui est intéressant ici, c'est que comme on a étudié 5 versets, on va se poser 5 questions avec lesquelles on va se laisser et se retrouver lundi prochain, 20h. Donc, par rapport aux 5 versets qu'on a étudiés, j'ai trouvé du coup 5 questions, donc une question par verset, et du coup, que je vais vous citer. Donc, première question. Suis-je une personne agréable dans mes paroles? Suis-je une personne agréable dans mes paroles? Deuxième question. Est-ce que j'ai un conseiller ou plusieurs conseillers? Et si j'ai plusieurs conseillers, troisième question. Est-ce que je les ai éprouvés? Quatrième question. Si j'ai connu des moments de détresse, quels sont les amis qui étaient auprès de moi? Et cinquième question, As-tu pardonné la trahison d'un ami? Parce qu'il faut pardonner. Et si oui, comment et dans quelles circonstances? Parce que je pense que c'est... Du coup, pour cette dernière question, c'est un peu répondre à cette dernière question qui va vous permettre de voir si vous avez vraiment pardonné et si vous êtes vraiment passé à autre chose ou pas. Donc, voilà. Les cinq questions. Es-tu une personne agréable dans tes paroles? As-tu un conseiller ou plusieurs? Si tu en as plusieurs, les as-tu éprouvés? Si tu as connu des moments de détresse, quels sont les amis qui étaient là pour toi, qui étaient auprès de toi? Et as-tu pardonné la trahison d'un ami? Si oui, comment et dans quelles circonstances? Donc, voilà, je pense que c'est mon plus long épisode enregistré. Moi qui dis ça avec mes trois épisodes dans mon palmarès. Mais voilà, plus long épisode enregistré. Donc j'espère que vous allez aimer. J'espère que vous allez aimer. J'espère que ça va vous faire du bien. Et que vous allez limite réussir à penser à d'autres choses dans ces versets-là que je n'ai pas forcément dit, mais que vous, ces versets vous ont inspiré. Et puis on se retrouve dans une semaine pour la partie 2, donc Siracide 6, versets 12 à 17. Et voilà, je vous souhaite une agréable semaine et plein de bisous, que Dieu vous bénisse!
I was searching, then I found you.